C'est Ewan qui demande quels sont les troubles les plus courants que quelqu'un rencontrera forcément un jour et quelles sont les actions rapides à prendre en cas de crise?
Alors, les troubles psychiques les plus répandus, c'est la dépression. Une personne sur cinq en souffrira au moins une fois dans sa vie. Donc, personne n'est à l'abri de faire une dépression un jour. Et les troubles anxieux, c'est les troubles les plus répandus en France en tout cas. Donc, comment faire? Bah, la dépression, pour la dépression déjà, eh ben, c'est de bien en connaître les signes avant-coureurs et les symptômes avant-coureurs. Parce que les maladies psychiques, plus elles sont prises en charge tôt et mieux on s'en sort. Hein, c'est comme, je fais toujours le rapport avec le cancer, même si c'est un peu violent. Mais vous avez un petit grain de beauté, la dermato, elle vous dit, oh là là, ce petit grain de beauté-là, il va falloir le retirer. Vous le faites retirer, ça va mieux. Si vous attendez que le cancer soit généralisé, eh bien, ça sera beaucoup plus difficile à soigner, vos jours seront en danger. Ben, c'est pareil dans les troubles psychiques, plus vous intervenez tôt, et moins la maladie s'enracinera. Et mieux vous rétablirez rapidement. Donc ça, c'est pour la dépression et les troubles anxieux. Donc les premières choses à faire, c'est d'en parler au médecin. Repérer les signes et les symptômes et d'en parler au médecin. Oui?
Et j'allais dire du coup d'avoir un bon suivi, rien que déjà ça à la base avec, j'imagine, ce suivi dans le temps qui va permettre de voir aussi qu'à un moment donné, qu'il y a peut-être des troubles qui commencent à prendre de.
Eh ben, en fait, faut connaître les signes et les symptômes. C'est-à-dire que la dépression, c'est pas la petite déprime du lundi matin parce qu'il faut aller se bosser. C'est pas la petite déprime parce que on a perdu la Coupe du Monde. C'est pas ça. La dépression, c'est vraiment un trouble de l'humeur qui va s'installer dans le temps. C'est-à-dire, c'est un état de tristesse, de fatigue, d'irritabilité, un changement de comportement en fait, hein, par rapport à la normale, une perte de plaisir. L'envie de plus envie de faire grand-chose, difficulté à se lever. En fait, il y a un changement de comportement qui s'opère par rapport à ce que l'on est habituellement. Et cet état-là va durer plus de 15 jours. Parce qu'on peut avoir des coups de mou, hein, des coups de blues, ça arrive à tout le monde, ça dure quelques jours, on est un peu fatigué, un peu. Bon ben ça voilà, c'est normal, c'est dans l'équilibre des choses de la vie. Mais quand ça s'installe et que ça devient de plus en plus profond, et qu'il commence à avoir une dévalorisation de soi, un pessimisme qui s'installe, une difficulté à avancer, là il faut commencer à se poser la question effectivement si on n'est pas en train de commencer une dépression. Et la meilleure chose à en faire, c'est d'aller voir le médecin traitant.
Ok, bah ça semble
Et
logique.
souvent, ça commence par les troubles du sommeil. Donc voilà, des insomnies. Alors, on a tous notre petite insomnie parce qu'on a une réunion le lendemain qui nous tient à cœur, etc. Mais je parle des insomnies qui s'installent là encore dans le temps, qui empêchent au corps de récupérer et qui vont venir ben, s'installer et amener de plus en plus d'autres symptômes.
Ben merci pour les précisions là-dessus.
Voilà. Et les troubles, juste une petite parenthèse aussi sur les troubles anxieux, qui sont un mal aussi dont on parle, mais qui sont un peu mal connus. Les troubles anxieux, pareil, on a tous des états de stress, hein, avant un examen ou devant un événement un peu particulier. Mais les troubles anxieux, c'est vraiment un état de souffrance qui s'installe, hein, où la personne va être inquiète, avoir peur de tout en permanence. Enfin, je le fais très très rapide, hein, je vous fais un truc hyper light. Mais les troubles anxieux, quand ils sont installés et sérieux, vont vraiment manger la vie de la personne. C'est vraiment les troubles anxieux vont empêcher des jeunes d'aller à leur examen, ça va faire installer des phobies scolaires, ça peut faire installer la peur d'aller vers les autres, ça peut entraîner de la phobie sociale. Donc c'est aussi à prendre en compte les troubles anxieux, et notamment chez les jeunes. Et pareil, là, d'être pas dans le oh, mais c'est bon, tu vas être un peu courageux, tu vas un peu te bouger, tu vas un peu te forcer, mais prendre en compte ce qu'ils ressentent et de voir à partir de quand ça devient handicapant dans leur vie. C'est une réelle maladie, hein, le trouble anxieux. Donc c'est pas prendre à la légère non plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont et croient que c'est normal, ça leur bouffe la vie, ils sont mal dans leur peau, alors que c'est pas normal.
Et justement, ça rebondit un peu avec la question justement de Bob Paquito qui dit les personnes isolées socialement, sombrant dans le complotisme, sont-elles en danger mental? C'est vrai que c'est juste cette partie-là, sans faire on va dire, de lien, mais le post-Covid, je pense qu'il y a eu justement
Oui.
beaucoup, on va dire, de liens par rapport à ça.
Ah oui, la COVID, enfin la COVID, la façon dont ça a été géré le confinement, ça a été une catastrophe pour l'être humain. Enfin, on a été soumis à tout ce que l'être humain peut être soumis pour être mal, en fait. Donc c'était, dire, j'ai presque envie de dire, comment ne pas avoir fait une dépression pendant ou après le Covid? C'est presque normal, je dirais, parce que l'être humain est déjà grégaire, donc couper des liens sociaux, et bien forcément, ça va le fragiliser, même les personnes les plus équilibrées. La solitude qui a pu être créée par le confinement chez personnes qui vivaient seules, et bien forcément, enfin, rester seule pendant 2 mois sans parler à personne, ça devient complètement, complètement générateur de troubles. Et puis vous avez aussi toute la partie aussi du Covid qui a été traitée avec un sentiment d'insécurité et de on va peut-être mourir, et avec un gouvernement qui disait nous sommes en guerre. Donc tout ça mis les bouts après les bouts, fait qu'aujourd'hui, même si on en est sorti, ça a laissé un traumatisme général de la population, de la société, qui entraîne aujourd'hui une peur. Une impossibilité de se projeter vers l'avant, je vous parle même pas du réchauffement climatique. Comment voulez-vous que la société ne soit pas déprimée actuellement et en post-Covid? J'ai presque envie de dire, c'est presque anormal d'être bien, quoi. Donc c'est évident que les troubles psychiques se sont développés avec tous ces événements. Alors, tout le monde ne fait pas une dépression suite à la Covid, hein, mais les personnes qui étaient déjà un petit peu sujet prédisposé, les personnes qui vivaient dans des situations sociales et psychologiques plus difficiles, bah forcément ça les a fait sombrer. Donc et avec un post-Covid qui est pas plus réjouissant, donc comment aller de l'avant, comment repartir? Et apparemment bah c'est difficile.
Et juste pour finir sur la question de Bob, du coup, il y a vraiment, il y a une notion vraiment de danger mental, c'est-à-dire on est vraiment dans quelque chose qui est, dans le cadre, dans sa question de les personnes isolées socialement sont rendues complotistes, sont-elles en danger mental, tu dirais en deux
Oui.
mots, oui, vraiment, pour le coup.
Je dirais même, enfin, après, allons savoir si c'est le complotisme qui fait le danger ou si c'est le danger qui a entraîné le complotisme. Mais oui, forcément, c'est surtout l'isolement, je pense, qui est mauvais. L'isolement, de ne pas pouvoir se confronter à d'autres liens sociaux, de ne pas pouvoir en discuter, de ne pas pouvoir partager. Bah, effectivement, pour moi, c'est l'isolement qui va être plus le complotisme. Après, est-ce que le complotisme est lié à un délire de persécution? Ça peut l'être, mais pas seulement. Il y a des gens qui sont complotistes sans avoir de délire de persécution. Enfin, après, les troubles psychiques, c'est extrêmement complexe, hein. C'est difficile de mettre les choses dans des cases. Là, je suis un peu très simpliste dans ce que je dis, mais c'est difficile de dire est-ce que les personnes qui sont isolées et qui font du complotisme sont plus en danger mental? Sans doute, oui, puisqu'elle a un facteur d'isolement. Et un facteur d'environnement insécurisant. Donc, effectivement, c'est deux critères qui peuvent favoriser le danger d'un trouble mental. C'est pas les seuls, mais c'est des critères. Sais pas si j'ai été claire.
Oui, j'allais dire après, t'inquiète pas, parce que le but de cette soirée aussi, c'est de vulgariser, hein, c'est pas de tomber
Ouais, j'ai
dans
l'impression d'être très très
le jeu.
d'être très 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 large, hein. Mais en fait, on ne peut pas dire, on ne peut pas généraliser, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui vont vivre des choses très graves, qui ne font pas de traumatisme et qui s'en sortiront. D'autres qui vivront des choses moins graves, qui ne vont jamais s'en remettre de leur vie. Des gens qui sont dans des situations sociales, psychologiques et physiques abominables, mais qui ne font pas de dépression. Puis des personnes qui ont tout qui vont bien et qui font des dépressions. C'est multifactoriel, hein, les troubles psychiques. Ça peut être environnemental, physiologique et psychologique, éducatif. Donc, à partir de là, c'est difficile de dire toi oui, toi non. Et il y a des personnes qui peuvent être complotistes, isolées, mais qui ne développent pas de troubles psychiques non plus. Mais on est sur des critères qui peuvent la favoriser.
Et du coup, justement, paf, ça rebondit sur la question de Praly, qui dit comment reconnaître une personne en début de situation de détresse, si elle ne le montre pas forcément, comment reconnaître les signes? Justement, c'est.
Alors, oui, effectivement, parce que c'est une question intéressante, parce que dans les troubles psychiques, effectivement, c'est pour ça qu'on parle de signes et de symptômes. C'est-à-dire que les symptômes, c'est ce que la personne va vivre à l'intérieur d'elle-même, Alors que les signes, c'est ce que vous, vous allez voir de l'extérieur. Et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez voir votre mari, hein, ou votre épouse, qui commence à plus avoir envie de rien faire, qui fait plus le ménage, qui le week-end reste au lit jusqu'à 11h, et puis qui se lave plus, et puis qui a plus envie d'aller au travail, et puis qui rigole plus, puis vous allez dire, mais oh, tu te bouges? Et en fait, non, tout ça, ce sont des signes que vous allez constater qui vont être effectivement le reflet de l'installation d'une détresse. Donc, effectivement, les signes sont pas toujours faciles à, comment dire, à percevoir, parce qu'on va surtout les percevoir dans les préjugés. On va avoir quelqu'un qui se lave pas, quelqu'un qui a plus envie de rien, quelqu'un qui ronchonne, alors qu'en fait, la personne est en détresse. Donc là encore, pour le savoir, il faut aller voir les signes et les symptômes des différentes maladies pour comprendre qu'une personne qui va pas bien, elle va pas forcément vous le dire. Elle va pas forcément dire je vais pas bien, tu sais, elle va peut-être plus se laver, peut-être plus faire le ménage, et là vous allez avoir envie de la secouer, et dire bon bah maintenant ça suffit, tu deviendrais crasse-pouille. Et c'est là que commencent les jugements, et c'est là que commencent les préjugés, et c'est là que la personne s'enferme encore plus parce qu'elle est incomprise, et c'est là que les choses s'aggravent. Donc effectivement, c'est Pralie qui posait la question. Les signes de détresse, c'est surtout un changement de comportement, je dirais, par rapport à l'habitude. C'est-à-dire que ça va être ça, le premier, les choses à laquelle il faut le faire plus attention, le changement de comportement. Si vous avez une épouse qui est habituellement super dynamique, qui fait plein de choses, qui est rigolote comme tout, et qui d'un seul coup fait plus son ménage et ne fait plus rien, il y a un problème. Changement de comportement, c'est le premier truc. Le premier critère à retenir face à une personne en détresse. Alors si vous la connaissez pas, après les signes de détresse si, face à quelqu'un d'inconnu, vous allez être sur tout ce qui est communication verbale et non verbale. Donc vous pouvez voir quelqu'un pleurer, quelqu'un recroquevillé sur lui-même, quelqu'un d'agité, alors toute la gestuelle, quelqu'un qui se met à bouger dans tous les sens, ou au contraire qui est replié dans un coin, enfin. Mais là, on est plus sur des signes de détresse, comment dire, ponctuels. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Trali.
Je pense que oui. Et puis surtout, de ce que tu disais, c'est que là, on est dans le cadre de... De toute façon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, dans le cadre de quelqu'un que tu connais. Après, si c'est reconnaître une personne dans une situation de détresse avec quelqu'un, comme je disais, qui est dans la rue et tout ça, et que tu ne connais pas la personne, là, en effet...
Oui, ça sera difficile. Ça sera difficile.
Plus compliqué,
ouais. Oui, oui, oui. Mais ça peut être le cas des collègues au boulot. Hein. Vous avez une collègue qui est super sympa, puis vous la voyez d'un seul coup s'éteindre, se recroqueviller sur elle-même, ne plus venir au café, arriver en retard, aller régulièrement aux toilettes plus qu'à l'habitude. Enfin, j'ai envie de dire que c'est le changement de comportement qui va alarmer. Parce qu'après, si la personne elle arrive tous les jours en retard et que c'est sa façon de fonctionner, c'est pas un critère. Mais c'est les changements. Les changements de comportement. Mais sur quelqu'un d'inconnu, effectivement, c'est ce que je disais, ça va être plus le comportement, la communication physique et physique, verbale et non verbale, qui vont faire des signes.
Nickel. Écoute, là, une petite question de Aquan qui demande est-ce que ça, c'est une question un peu typique de Thinkerview. Est-ce que tu aurais justement des recommandations de lecture ou d'écoute tout simplement de podcast YouTube concernant le sujet?
Alors, moi, je vous conseille toute la docu. Je conseille le site Psychom qui a été cité dans le déroulé, qui fait des tas de petits dépliants et des tas d'informations sur tout ce qui est maladie psychique. Et il y en a vraiment, il y en a vraiment beaucoup de choses. Et il est sérieux. C'est un site sérieux. Donc Psychom. Je conseillerais aussi. Un petit film que vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est une petite vidéo qui s'appelle « Et toi, comment ça va ?» qui a été faite par la fondation... Necker, je crois. Non, pas Necker. Fondation... Enfin, qui est spécialisée dans la dépression. Et c'est une petite vidéo qui montre ce qu'une personne ressent quand elle est en dépression. Et il est vraiment très bien fait. Donc, je vous le conseille. Vous comprendrez... que vit une personne dépressive de l'intérieur. Voilà, le voilà. Merci Deniker, la Fondation Pierre Deniker. Merci Loutre Poutre. Voilà, il est vraiment très très bien. Et puis Psychom, et après, qu'est-ce qu'il y a comme, comme site? Qu'est-ce que je peux conseiller? Après, il y, y a tellement de tout. Il y a le site Amélie aussi, de la Sécurité sociale, qui propose des choses très objectives, du coup, pour le coup, en termes de description des symptômes, etc. Après, y en a plein, mais ceux-là sont déjà bien. C'est comme déjà, c'est une bonne entrée en matière. C'est vulgarisé, c'est simple, on comprend bien.
C'est déjà plutôt pas mal. Et d'ailleurs, j'invite, si la commune d'ailleurs a d'autres liens, vous n'hésitez pas à les poster dans le channel, comme ça fait toujours pareil, partage pour tout le monde.
Il y en a plein des liens, mais il y en a tellement que. Après, voilà, là, c'est les plus généraux, en fait.
Attends, j'en profite. En tout, pour ta question, je propose qu'on la pose un petit peu après pour l'histoire de. Enfin, je la poserai. Parce qu'il y avait justement O.T. Énervé qui demandait une question qui, je pense, qui va te parler, Letty. Quel est selon vous l'état de nos rues? Pardon. Quel est selon vous l'état de nos rues et surtout des gens qui y vivent? Quelle est la formation requise pour les approcher et ou les aider? Et quelle est la place de l'hôpital psychiatrique pour que ce soit des sites ou des bénévoles qui gèrent en substitution de ces premiers. Et après, il y aura l'autre qui posera une petite question dans la suivie.
Alors, tu peux reposer les questions.
Oui, je te les refais. Donc, la
La
première,
première.
quel est selon vous l'état de nos rues et surtout des gens qui y vivent?
Alors, dans la rue, il y a un tiers des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Déjà, donc parce que souvent, eh ben, les personnes qui souffrent de troubles psychiques sont rejetées par les familles, incomprises, rejetées ou fugues. Donc, elles se retrouvent à la rue. Donc, il est clair que une grosse partie des personnes SDF ont des troubles psychiques et c'est aussi pour ça qu'elles se retrouvent à la rue. C'est comme elles ne savent plus se gérer par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Eh bien, forcément, voilà, elles se retrouvent sans logement, sans isolées, etc. Alors l'état des rues, oui, bah du coup, comme la prise en charge psychiatrique est de plus en plus restreinte, et bah, il y a de plus en plus de personnes à la rue, effectivement. Est-ce que ça les rend dangereuses? Ça rend les rues dangereuses. Pas plus que ça. Ce ne sont pas les personnes qui ont des troubles psychiques qui sont les plus dangereuses et les plus violentes. Au contraire, ce sont plutôt elles qui sont victimes de violences et d'agressions. Donc, est-ce qu'elles sont plus dangereuses? Non. Est-ce qu'elles sont inquiétantes dans le sens où effectivement c'est un signe d'une prise en charge de la santé citoyenne qui est en plein désarroi? Oui, c'est en ça que c'est inquiétant. Donc, oui. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question de l'état des rues.
Je pense éventuellement dans la question d'auto-énervé, c'était peut-être, enfin, auto-énervé, tu me diras, peut-être plutôt par rapport à la partie SDF, les gens qui sont vraiment pour le coup, voilà, qui sont quelque part en marge par défaut de la
Oui.
société, comment, voilà. Et je crois que toi, tu as une expérience
Ouais.
qui est dans le domaine, justement.
Ouais. Bah, les personnes qui. Mais je comprends pas la question. C'est quoi la typologie des personnes qui sont dans la rue? C'est
Alors,
quoi le.
non, c'est vraiment, tu vois, je pense que la question, c'était plutôt, donc, surtout, quelle est la formation requise pour les approcher et les aider? C'est finalement,
Ah, d'accord.
voilà, si tu sens que, voilà, est-ce que nous, monsieur tout le monde, peut, voilà, franchir, tu vois, ce pas-là? Ou t'énerver, tu nous dis, si jamais.
Voilà, est-ce qu'il faut des formations? Alors je dirais qu'il y a déjà normalement des personnes, il y a le SAMU social qui passe normalement auprès des. Il y a des. Vous savez, des personnes qui passent, qui font le tour pour aider les personnes SDF. Elles peuvent aussi accéder à des foyers d'accueil d'urgence, hein, à travers. Elles doivent composer un numéro qui est le 115 et qui oriente les personnes vers des structures d'accueil, des foyers d'accueil d'urgence. Donc il existe déjà au niveau professionnel tout un maillage. Pour aider ces personnes. Après, il faut que les personnes aient envie d'être aidées. Ça, c'est une autre histoire. Mais il y a déjà un maillage de professionnels. Après, un particulier, qu'est-ce qu'il peut faire face à une personne SDF? Bah déjà, ne serait-ce qu'apporter, comment dire, là, je suis plus sur une partie humaine que de soins en santé mentale, mais apporter de la, comment dire, de l'attention. Dire bonjour, comment ça va, discuter 5 minutes, voilà, c'est déjà énorme. Mais Secourir des personnes SDF, on est sur les troubles psychiques là alors? Parce que je comprends pas la question. Comment aider les SDF? C'est sur les troubles psychiques?
Alors attends, on va demander, est-ce que au Ténervé, tu peux nous le préciser dans le chat, parce que je crois que t'as pas le micro. Ah, comme tu vois, il nous dit orienter vers des accueils de jour à défaut. Pour, ouais.
Voilà, y a déjà un maillage hein, qui existe, un maillage social hein, pour les personnes SDF. Le plus difficile, c'est de les faire aller vers ce maillage-là parce que ben, les personnes, elles n'ont pas forcément envie hein, d'être accueillies en foyer d'accueil d'urgence. Elles revendiquent aussi leur liberté. C'est des personnes qui sont habituées, oui, à avoir leur liberté et qui ont du mal à accepter les règles, du coup. Donc, et quand elles rentrent en foyer d'accueil d'urgence, et ben, y a des règles à respecter puisqu'il y a une collectivité, ils doivent partager l'espace. Il y a des règles par rapport à l'hygiène, par rapport aux chiens, etc. Mais un maillage existe pour les personnes SDF. Un maillage existe. Un maillage professionnel existe. Je sais pas si. Après, nous, en tant que citoyens, pour aider, on peut apporter un peu de solidarité, d'empathie, de sympathie, ça serait déjà pas mal. Prendre le temps de discuter. Voilà.
Juste ce qui est la base humaine.
La base humaine. Non, mais c'est bête, hein, mais je me suis retrouvée, il y avait une jeune femme qui faisait bah justement, qui faisait la manche devant le centre commercial, enfin j'allais faire mes courses, et elle pleurait. Elle pleurait, et personne ne s'est arrêté. Enfin, personne ne s'est arrêté. Elle pleurait dans l'indifférence générale, quoi. Et bah voilà, je me suis assise à côté d'elle et puis on a discuté, tout simplement. Alors j'ai pas résolu tous ces problèmes, hein, mais au moins je l'ai prise en compte. Enfin, ça coûte pas grand-chose. Et bah, au moins, elle sait que quelque part, il y a eu quelqu'un qui a pris le temps de l'écouter 5 minutes, quoi. Mais ça, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on n'ose pas, ou je sais pas si c'est une pudeur, ou une non-envie, ou une peur, je sais pas ce qui peut freiner.
Et du coup, justement, alors attends, il y a l'outre, je pense que tu voulais enchaîner sur cette question. Tu confirmes?
J'aurais aimé poser une question par rapport à la grossesse, qu'elle soit désirée ou non, et aussi comment aider et accompagner une personne qui aurait choisi l'avortement et qui se sente mal avant, pendant et après.
Alors là, on sort un peu du champ des troubles psychiques, mais on peut être sur le même accompagnement, c'est-à-dire que, eh ben, dans l'écoute, dans le non-jugement, amener la personne à exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle désire, et ne pas l'amener à faire un choix, mais l'aider à faire son choix. Parce que, voilà, l'aider à faire son choix, mais pas le forcer dans un sens ni dans l'autre. C'est sa décision et elle lui appartient et elle doit être respectée. Donc je pense que c'est encore le respect, le non-jugement et l'écoute active qui pourront aider cette personne-là. Sachant qu'effectivement, un avortement, selon ce que la personne, enfin, si elle subit l'avortement, comment dire, si elle voulait garder le bébé, qu'elle ne le fait pas au nom de la raison, effectivement, il va y avoir un travail de deuil à faire. Et là, on est sur autre chose, on est sur le travail de deuil. Mais faudra passer par différentes étapes pour l'acceptation et du geste et de l'après. Je sais pas si je suis claire, mais pour moi la méthode est la même, l'écoute, pas de jugement, et laisser la personne faire son choix. Parce que y a rien, enfin c'est. Y a personne d'autre que la personne qui est enceinte peut faire ce choix-là. Et surtout ne pas la condamner ni dans un sens ni dans l'autre. À mon avis, et l'amener à faire son vrai choix. Ça va être ça la clé. Qu'elle fasse le choix qui est bon pour elle.
Merci pour la réponse, tu as été très clair.
Du coup, on peut enchaîner. Alors, c'est dommage, Prali est parti, mais on va quand même poser sa question qui, en effet, qui rejoint un peu alors ce qu'on disait tout à l'heure avec Oli. Comment gérer un chantage émotionnel? Par exemple, une personne qui menace de se suicider, justement, mais une personne qu'on ne connaît pas. Est-ce que la question te va ou tu veux que je la.
Une personne qu'on ne connaît pas viendrait vers nous et nous dire je vais me suicider?
Un peu ce que tu vois, pardon, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, quelqu'un qui vient par exemple sur ce Discord, comme c'est déjà arrivé, qui va émettre en fait, alors qu'on ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam, et qui va émettre ces mots-là, est-ce que c'est des mots qui sont finalement Bah, tu sais pas trop. Est-ce que c'est juste là pour attirer l'attention en donnant quelque chose qui est très fort dans les mots, ou est-ce que c'est quelque chose qui est une réalité? Je pense que c'est pour ça que Praline, c'est dommage qu'elle soit pas là, mais je pense que c'est ça. Gérer finalement le chantage émotionnel. Est-ce que c'est là pour, voilà, pour attirer l'attention, ou alors est-ce que c'est vraiment une vraie réalité d'alerte? Est-ce qu'il y a peut-être pareil, peut-être quelques clés là-dessus?
Alors, c'est ce que disait Anthony tout à l'heure, et je le rejoins complètement. À partir du moment où quelqu'un évoque qu'il va se foutre en l'air d'une manière ou d'une autre, c'est à prendre au sérieux. Qui compte le faire ou qui soit dans une manipulation, on n'en sait rien. Mais toute démarche de quelqu'un qui a des intentions suicidaires doit être prise au sérieux et accompagnée. Donc, même si c'est quelqu'un d'inconnu, même si c'est quelqu'un qui fait ça pour provoquer, par exemple, eh ben, moi je ferais la même chose, c'est-à-dire j'isolerais, comme on disait tout à l'heure, non pas l'isoler pour la mettre de côté, hein, pas pour la rejeter, mais pour essayer de comprendre ce qui se passe en fait quand elle dit ça. Aller chercher un peu la cause de ses propos. Parce que c'est pas anodin, enfin c'est grave de dire qu'on veut se foutre en l'air. Et si quelqu'un le dit juste par provoque ou par manipulation, ben, c'est grave aussi. Donc, il faut de toute façon lever les lèvres, j'ai envie de dire, et aller chercher un peu ce qui se passe. En tout cas, ça peut pas être, ah ouais, d'accord, ok, on passe à autre chose. Voilà, ça peut pas être ça. Pour moi, faut mettre les pieds dans le plat.
Ok, parfait.
Alors après,
Oui,
Anthony
vas-y,
peut
je
me.
peux rajouter ou pas? Je veux surtout pas Non, mais
être.
vas-y,
Ah
Anto, c'est le
si, au
but. Hein.
contraire, au
Ok,
contraire.
super. Voilà, je me tais juste pour entendre et pour pas. Mais concrètement, comme tu as dit, Laetitia, chaque mot sur ça, c'est absolument pas anodin. Là, on parle de chantage émotionnel. On peut rajouter aussi le chantage affectif. C'est vraiment pas anodin. Et clairement, la méthode est la même dans le sens où on n'est pas là pour orienter une personne. Absolument pas. Il n'y a pas de cadre comme une psychothérapie ou autre. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, en fait, hein, de toute façon. Donc, c'est ce que je voulais rapporter, préciser, en tout cas.
Ouais, jamais prendre à la légère.
Jamais, jamais, jamais,
On est
jamais. Même
d'accord.
en disant, en rigolant.
Oui, je suis
Non, même
d'accord.
en rigolant,
Ouais,
hein.
ouais, ouais, ouais,
Même en
ouais.
rigolant. Voilà.
Tout à fait.
Eh bien, vous faites bien, du coup, de le rappeler. Au moins, je pense que pour ce soir, ça sera compris.
Voilà, et pas
Tant
éviter le
mieux.
sujet, hein, pas éviter le sujet, justement. Allez
Surtout
dedans.
pas.
Voilà,
Oui.
allez dedans. Ah, tu dis ça, qu'est-ce que tu sous-entends par là? Voilà, et puis bon, après la personne, elle va développer ou pas, mais, oh, mais c'est important ce que tu dis. Enfin voilà, l'inviter à aller développer ce qu'elle vient de dire. Mais pas éviter, pas se moquer, pas comment on dit,
Ironiser
ironiser. Voilà,
le.
chercher le mot.
Ouais. Mais
Merci.
comme vous disiez, c'est dans le cadre de notre. Je fais la digression de 2 secondes, c'est que oui, dans le cadre de notre Discord, ça veut dire que c'est sortir, par exemple, là, on est nombreux, c'est sortir, se mettre sur l'autre channel dédié où il n'y a personne et de venir prendre la personne. En plus, nous, en tant qu'admin, on a la possibilité de pouvoir le faire, de sortir et de l'amener à discuter. Donc, ouais, ok, on toujours pareil, le protéger, alerter, hein, secourir, quoi.
Ou
Ouais.
même un petit
Ouais.
message, hein, si vous n'osez pas le dire à l'oral. Tiens, tu as dit un petit truc juste au cas où, tiens, je t'envoie ce petit lien, machin, tu vois. Voilà, c'est au cas où tu peux en parler. Il y a des assos, il y a pas forcément des professionnels. Alors, oui, l'idéal, ce serait des professionnels, mais par contre, ça veut dire que vous allez conseiller. À partir du moment où on conseille, on a, entre guillemets, on sort du cadre neutre, donc du jugement, en fait, hein. C'est ça qui est très subtil, hein, dans l'écoute active. Mais après, de notre côté, à titre de citoyen, tiens, j'ai vu que tu avais dit ça. Est-ce que tu veux qu'on en parle ou est-ce que tu veux que je te guide ou, voilà, mais pas plus. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai, comme tu disais, pas tout de suite parler de professionnel, ça effraie. On apprend en secours en santé mentale quand on dit aller encourager aller vers des professionnels,
Je
c'est
suis
horrible pour la
malade.
personne. Voilà, c'est sûr que si la personne me dit mais je suis pas fou, ou je suis pas folle, ou mais y a pas la c'est pas la peine. Mais au moins aller vers des associations, vers d'autres ressources qui pourront, elles, amener d'une manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse, à accompagner la personne à aller vers. Mais c'est sûr que tu n'as pas l'air bien, tu as l'air complètement déprimé, va voir un psy. C'est assez agressif à entendre pour une personne qui est en souffrance.
Donc oui, quelque part savoir mettre aussi les limites de ce que vous dites par rapport à ça et de savoir finalement conseiller enfin, la bonne voie quoi, sans parler
Voilà, sans
comme
parler tout de
justement
suite.
de passer justement comme je pense en tôt comme dire tu vas pas voir en gros j'ai une bêtise tu vas pas voir un psy mais tu vas voir tu peux commencer par exemple voilà y a une association qui s'appelle Le Trèfle tu peux aller voir tu peux poser la question c'est un mode
Oui,
c'est de
tout à
l'écoute
fait.
finalement active enfin, je pense que c'est
Il y en
au
a bien
minimum un
d'autres, hein.
prénom.
Il y en
Il y
a
en a
bien
bien
d'autres,
d'autres, hein, il y en a bien
oui.
d'autres.
Et on les redirige aussi quand on n'a plus de place.
Mais tu vois, là moi je parle en tant que citoyen, c'est parce que nous on te connaît au travers de l'AFSER, mais maintenant, moi tu me demanderais après quel asso, à part dire, tu vas voir, ouais, ou comme je sais plus qui c'est qui redonnait en gros le 15, le 17, etc., enfin les numéros d'urgence, c'est vrai qu'on connaît pas forcément grand monde, quoi. Donc c'est salutaire.
Ben, vous avez
Merci surtout.
Oh, pardon, excuse-moi,
Bah,
finis.
vas-y, vas-y. Bah, je disais juste merci pour surtout pour les gens qui en ont besoin en fait. La ressource. Avoir la ressource.
Oui,
Nous,
d'avoir
on
la
est
ressource.
sur Discord, ok. Mais il n'y a pas que Discord. On est un tout petit truc. Après, il existe plein de serveurs, de machins lambda. En tout cas, il y a énormément d'associations. Il y en a plein. Il y en a
Oui,
plein.
il y en a plein, c'est
Il y en
vrai,
a
il y en
plein.
a plein.
Il y en a plein.
On l'écoute, il y en a plein. Et pour la prévention suicide, il y a vraiment le 31-14 qui est tout récent. Et c'est en face, c'est vraiment des pro et c'est pas mal parce que ce sont des professionnels qui sont spécialisés dans le suicide et qui vont pouvoir évaluer le degré de souffrance de la personne et savoir quoi faire. On n'est pas forcément en mesure de faire, nous, non professionnels, quoi. Il y a quelqu'un?
Oui.
Oui,
Oui, on
j'ai
t'entend, on t'entend.
eu un gros blanc et j'ai cru que j'avais été déconnectée, en fait. Donc voilà, le 31-14, ça peut être aussi un bon lien.
Parfait. Parfait, parfait. Du coup, on va passer sur une autre question qui est de Scarrow Warrior, où il nous dit, alors, moi j'ai une question double, car vous avez parlé de comment se détacher quand on ne connaît pas la personne, mais quand la personne est proche, comment peut-on faire? Comment peut-on faire, pardon? Et deuxième partie de la question, comment faire quand la personne est réfractaire à vouloir suivre des soins ou dans le déni?
Alors, la première question, c'est comment faire quand on accompagne un proche? Bah oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que l'affect est là et d'un seul coup, eh bien, le jugement se fait plus rapidement du coup parce qu'on a des attentes vis-à-vis de la personne et bah, du coup, on va avoir tendance à plus juger, à voir que la personne, ça évite dans le soin, à lui dire bon, bah, maintenant, ça suffit, hein. Donc, comment faire quand c'est un proche? Moi, je dirais d'être là au quotidien, mais que l'accompagnement se fasse par quelqu'un d'autre. Si on a un époux, une épouse qui va pas bien, par exemple, ben, de comprendre la situation, mais pas devenir ne pas devenir l'aidant direct.
De ne pas se substituer à un professionnel, en fait, hein.
Oui, ne pas se substituer à un professionnel et voire même. De passer peut-être à des amis de confiance ou la notion d'aide. Que la relation dans le couple reste la relation du couple et que se transforme pas enfin je parle du couple hein, mais ça pourrait être un frère ou une sœur. Mais de toute façon, il faudra avoir conscience. Je pense que c'est ça la différence, d'avoir conscience qu'il y a un lien d'affection, un lien d'amour entre la personne et le proche, et que forcément, ça va être plus difficile d'être dans le non-jugement. Ça va être ça. Donc, en avoir conscience pour pas tomber dans le piège de le devenir, dans le jugement. C'est plus facile, de dire à un jeune qu'on accompagne, certaines choses quand c'est son propre fils ou sa propre fille, par exemple. Donc, savoir qu'il y a ce lien qui existe et qui va venir, rendre les choses plus complexes. Et si ça nous est difficile de pouvoir accompagner, ben de passer la main. Moi, c'est on se sent capable en toute conscience, on passe la main.
Et pour la deuxième partie de la question, en fait, quand la personne est dans le déni, alors je crois que tu avais un
Ah oui.
peu finalement un peu répondu tout à l'heure en disant, quand tu donnais l'exemple de la personne qui va être dans un événement joyeux et qui va sortir finalement enfin voilà, qui va sortir quelque chose qui est complètement hors contexte, quelqu'un par contre qui est complètement dans le déni, j'ai fait une question bête du coup, est-ce que du coup il y a quelque chose à faire ou il faut attendre que cette personne parle?
Alors ça, c'est on dit toujours que dans la maladie psychique, quand la personne est consciente et accepte sa maladie, c'est 50% de rétablissement. Parce que c'est ça qui fait que la personne ne se soigne pas généralement, c'est qu'elle ne voit pas qu'elle est malade. Donc, et comme je le disais tout à l'heure, elle peut aussi, voilà, santé mentale, comme c'est abstrait, on se dit, bon, on va pas aller voir un médecin, c'est abstrait. Enfin, on va pas aller voir le médecin parce qu'on est triste. Enfin, ça paraît, on dit comme ça paraît stupide. Je suis triste, j'ai envie de rien, je vais voir le médecin. Enfin, ça, il y a comme un. Et justement, déjà, faire prendre conscience à la personne que ce qu'elle ressent, c'est pas normal par rapport à ce qu'elle était avant. Vous pouvez lui indiquer ça déjà, y a un différentiel entre ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue, et que là, il y a quelque chose qui semble ne pas aller. Et puis, l'inviter peut-être, moi, ce que je conseille, c'est de passer par le médecin traitant dans un premier temps. Si la personne se sent fatiguée, a des troubles du sommeil, etc. Et ben dire à la personne, tu sais, peut-être faire un bilan sanguin, passer par la voie du physique pour conduire la personne à aller voir le médecin traitant. Et le médecin traitant, lui, face aux symptômes que va lui décrire la personne malade, va pouvoir faire un diagnostic autre. Et c'est pas vous qui le posez, c'est le médecin. Ah, si j'étais claire, si.
Oui, clairement. Et puis en plus, il a pris le médecin est vraiment dans son rôle. Enfin, Anthony,
Voilà.
vas-y. Tu
Ah oui, non, pardon, oui, c'est vrai que j'appuie sur le bouton pour parler, ça fait bizarre. La priorité quand même, hein, pour le coup, dès qu'on peut, au moins le médecin généraliste.
Oui, le
Pour
médecin
celles et ceux
traitant.
qui l'ont, hein, parce que malheureusement, là où j'habite, par exemple, avant d'avoir un rendez-vous médical, c'est 2 mois. Bon.
Oh là là, ouais.
Mais en tout cas, un médecin, après, c'est toujours pareil. Un médecin, avant d'être un médecin, c'est avant tout un être humain. Donc c'est vrai que si le médecin, l'être humain, avant d'être médecin, ça passe pas, ah, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais nous, en tant que citoyen, de dire, bah, est-ce que tu t'entends parler? Oui, est-ce que tu en as déjà parlé? D'accord, est-ce que tu as envie? Oui, est-ce que tu es un médecin traitant? N'hésite pas à aller le voir, tu vois. Enfin, vous voyez, de bien s'assurer que c'est bien la demande de la personne aussi. Voilà, c'est bien ça, de pas conseiller tout de suite, ça va pas, médecin traitant. Hop, trouver une solution égale échec, hein, dans l'immédiat. Hein.
Ouais, si la personne, elle va pas adhérer. Faut qu'il y ait, faut qu'il y ait, ça peut être dans le temps aussi, c'est-à-dire que allô, oui.
Oui,
Oui,
t'inquiète pas,
on t'entend, on t'entend. J'ai juste coupé j'ai enlevé mon doigt du bouton pour parler.
Oui, c'est vrai que ça peut prendre du temps, la démarche, parce que effectivement, faut au maximum avoir l'adhésion de la personne, sinon ça marche pas. Mais comme pour nous tous, d'ailleurs, enfin, si on n'a pas envie d'aller chez le dentiste alors qu'on a une carie, personne nous y entraînera, bah, c'est pareil. Donc faut peut-être du temps aussi, y revenir, en parler, l'écouter. Voilà, ça sera peut-être pas au premier échange, le fait de sortir du déni. Il faudra peut-être du temps. Et ça, faut l'accepter, faut être patient.
Je pense qu'en effet, de ce côté-là, c'est.
Et on n'a pas la solution. On n'est pas des sauveurs.
Et non.
On n'a
Et
pas la solution.
on peut pas faire la place des personnes.
Et voilà. Et ça, c'est la base aussi, hein, de savoir se positionner sur ça. On n'est pas des sauveurs.
Juste de simples humains.
Des
Voilà.
simples, et pourtant, un fou. Voilà.
Et de bien le rappeler, alors c'est un peu contradictoire avec tout ce qu'on vient de dire, mais effectivement, de bien le rappeler, aider les gens, c'est déjà se protéger soi, hein, parce que souvent, en formation, j'ai des gens qui tout de suite, enfin, c'est toujours s'ils sautent pas avec la personne qui veut se suicider dans le Rhône. Non, 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 on se met pas en danger. Alors, on se met pas en danger physique et on se met pas en danger mental non plus. Si on peut pas, on peut pas. Voilà, faut connaître ses limites, même si on est formé, même si on est formé.
J'en profite du coup, bon petit rebond sur la question encore d'OT énervé qui dit, est-ce que certaines maladies seraient le résultat de problématiques de nos civilisations, en gros des maladies psychosociales? Et je pense à peut-être ce que tu voulais dire, peut-être burn-out OT énervé.
La maladie mentale, on le disait tout à l'heure, elle a plusieurs facteurs. Donc, elle peut avoir un facteur biologique. Hein, donc, ça peut être, par exemple, une prédisposition dans l'hérédité. Ça peut être ça. Ça peut être des soucis au niveau des hormones, des dérèglements hormonaux qui peuvent entraîner des dépressions aussi. Donc, ça, c'est le facteur biologique. Il y a le facteur, effectivement, psychologique. Donc, ça, c'est tout ce que la personne va être amenée à vivre dans sa vie. On a des vies plus ou moins dures, des enfants qui ont des éducations plus ou moins positives, la maltraitance, etc. Tout ce qu'on va vivre dans la vie, les épreuves vont aussi favoriser. Et puis, il y a aussi effectivement, l'environnement. Plus l'environnement est insécurisant, où il y a de moins de liens sociaux, où il y a de la précarité, où il y a de la solitude, effectivement, c'est aussi un des facteurs. Donc, si vous combinez l'ensemble de ces facteurs-là, eh ben, c'est vrai qu'il y a un risque d'augmentation de la maladie mentale. Donc, effectivement, est-ce que l'environnement peut créer de la maladie mentale? Elle peut en tout cas beaucoup la favoriser. Ça, c'est sûr.
Malheureusement, l'actualité regorge de ces problématiques-là. Mais ça, c'est un autre sujet.
Ça fait une espèce de cercle vicieux parce qu'on parle que des sujets qui rendent déprimés. Et quand on est déprimé et qu'on regarde les sujets déprimants, on déprime encore plus. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. Mais là, oui, moi, enfin, ayant fait des études de sociologie, je suis persuadée que la société actuelle alors contribue, on va dire, n'est pas responsable, mais contribue à la détresse psychique qui s'installe.
L'autre, tu avais une, peut-être tu voulais rebondir ou autre question?
Oui, j'ai une question qui va se rapporter un petit peu. Moi, je me projette un petit peu dans la situation où la phase d'écoute envers une personne qui est en souffrance ou qui aurait vécu une situation traumatisante est ratée, autant par ses proches que par la personne en elle-même, parce qu'elle n'a pas trouvé les bons mots pour en parler, ni à entamer une démarche pour essayer d'expliquer ce qu'elle a ressenti ou ce qu'elle a vécu. À travers ça, j'aimerais savoir en fait quelles sont les étapes et quels sont les critères pour enfermer un adulte, enfin enfermer, excusez-moi, interner en hôpital psychiatrique un adulte sous contrainte. C'est-à-dire que il n'a pas la volonté de faire partie de la psychiatrie hospitalière, mais il va s'y retrouver contre son gré. Donc quelles sont ces étapes? Et ensuite, si son cas ne relève vraiment pas de la psychiatrie hospitalière, est-ce que ça va pas justement empirer sa situation? Désolé, je pose la question d'un peu maladroite et Anthony, comme pour toi, soi-même, quels éléments de réponse vous pouvez apporter, s'il vous plaît?
Alors, la première question, c'était quelle est la procédure en fait d'une hospitalisation d'office, c'est ça?
Oui, d'office aussi, c'est bien ce que j'imagine comme étant sous contrainte, pas un
Ouais,
choix.
l'hospitalisation sous contrainte, oui, qui n'est pas un choix de la personne qui va être mise en soins psychiatriques.
C'est bien ça.
Alors, ça se fait pas comme ça, hein. C'est pas n'importe qui peut. Il faut déjà la position d'un médecin. Il faut qu'il y ait un certificat médical d'un médecin, ou alors il faut aussi une position, l'accord d'une personne assermentée. Par exemple, ça peut être le maire de la ville, ou c'est pas n'importe qui va pouvoir faire interner n'importe qui, n'importe quand. C'est cadré.
Ultra cadré, hein. Et même au-delà de ça, par exemple, ça peut être un préfet, ça peut être
Oui,
voilà,
personne assermentée, ouais.
même un psychiatre tout seul, il peut rien faire. Faut savoir que il va y avoir effectivement une première décision sur un internement, d'office, hein, une hospitalisation d'office sans consentement, et ensuite il va y avoir d'autres psychiatres qui vont réévaluer la situation. Donc on ne peut pas être vraiment interné comme ça. C'est vrai que ça reste un sujet qu'on extrapole comme ça sans connaissance, et c'est complètement normal. En tout cas, avant d'être vraiment interné, par exemple en UMD, j'imagine, hein, ou dans des centres psychiatriques très spécifiques. De manière générale, dans les urgences psychiatriques, ça va être de la propre volonté. Si ça ne l'est pas, il va y avoir vraiment un protocole très strict, voilà, avec différents professionnels et médecins généralistes et psychiatres et des personnes extérieures qui sont assermentées, voilà.
Alors, excusez-moi, je vais vous faire préciser parce que ça me semble important pour certains cadres. De ce que je comprends de vos mots, j'imagine qu'il pourrait y avoir une période d'études de la personne par des psychiatres et des médecins avant que cette personne se retrouve vraiment entre les quatre murs d'un hôpital psychiatrique.
Bah, la décision, déjà, se retrouver en hôpital psychiatrique, c'est généralement la personne se retrouve en hôpital psychiatrique si enfin les critères en fait, c'est si elle se met en danger ou si elle met en danger les autres. Au-delà de ça, on n'est pas interné comme ça. Donc Anthony a bien expliqué qu'il y avait une démarche, hein, c'est-à-dire qu'il y a un médecin, et après, une fois que la personne entre en urgence psychiatrique, il y a une évaluation qui est faite avant de poser un diagnostic. Donc la personne est en observation, si vous voulez, à l'hôpital, et ils vont évaluer l'état de la personne et s'il y a besoin de faire perdurer l'hospitalisation ou si la personne peut sortir. Il y a des personnes qui font des crises, par exemple, qui vont être hospitalisées. Et puis bon, la crise va passer, après 2 ou 3 jours, ils ressortiront. Donc c'est pas l'évaluation, elle est faite après l'hospitalisation, quand il y a état de crise, on va dire. Mais sinon, on n'hospitalise pas une personne. Si la personne a, comment dire, comment expliquer ça? A toute sa tête, je vais le dire comme ça, si elle n'a pas de troubles psychotiques, quelqu'un d'extrêmement dépressif, par exemple, et qui aurait besoin de soins, qui fait une dépression sévère et qui elle peut être hospitalisée avec son consentement. C'est quand la personne peut vraiment plus gérer par elle-même qu'il y a du non-consentement. Et si elle met en danger, et où ça se met en danger, elle. Je sais pas si j'étais claire.
Et pour le coup, le PSSM, du coup, tu n'y interviens pas, en fait.
Ah non. Ah non, 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 non.
Psychologie,
Ah non, 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 non.
enfin voilà, à partir du
Ah
moment où
non.
il y a urgence égale psychiatrie, en fait. C'est bien la
À partir
différence,
du
du
moment où
coup.
il y a urgence, enfin à partir du moment où tu es secouriste, c'est qu'il y a une crise et que tu ne peux plus la gérer parce qu'elle ne dépend plus de toi, parce que ça
C'est
dépasse tes
ça.
limites, tu appelles les secours le 15 et le 15 voit après ce qu'il fera en fonction de où il mettra en urgence générale ou en urgence psychiatrique, mais il va gérer. Mais c'est surtout pas toi qui décides de l'hospitalisation. Comme en secours physique. En secours physique, tu attends les secours et puis après, il y a hospitalisation pour hospitalisation, mais c'est pas toi qui prends la décision en fait. Mais un secouriste en santé mentale ne peut pas prendre la décision d'une hospitalisation d'office, ça c'est sûr.
D'accord, et excusez, je veux pas être trop vous embêter. Il y a bien une différence de service entre les urgences psychiatriques et un hôpital psychiatrique. Enfin,
L'urgence,
pardon,
il
vas-y.
peut alors. L'urgence psychiatrique, c'est là où les personnes vont être accueillies, en fait, quand elles arrivent à l'hôpital. Elles vont être en période d'évaluation, c'est-à-dire que on va essayer de voir ce qui se passe, en fait, hein, ce qu'elles ont, dans quel état elles errent. Et puis seulement après, elles seront admises dans un service si c'est nécessaire. Mais il y a une période d'évaluation. Ils peuvent pas, à moins que ce soit quelqu'un qui une personne qui soit malade psychique sévère et qui ait l'habitude, par exemple, une personne schizophrène qui régulièrement redécompense, effectivement, ça l'est connu par l'hôpital, etc. Peut-être qu'ils vont la mettre directement au service, qu'ils la connaissent, mais une personne qui est inconnue des services va passer par une table d'évaluation. Elle ne va pas rentrer dans un service
D'accord.
d'office, enfin.
Bah, de toute façon, ça va être déjà par l'infirmier qui va orienter, en fait, et ensuite par un médecin psychiatre pour pouvoir décider s'il doit aller plus loin ou pas. Parce que pour le coup, c'est d'abord l'urgence, si la personne est venue dans le cadre de l'urgence, avant d'être hospitalisée. Dans un centre psychiatrique spécifique, on n'y arrive pas comme ça.
Ouais, je suis d'accord.
Excusez, je vais rebondir sur vos réponses. Pour vous expliquer un peu le contexte, donc, je parlais beaucoup de lutte sociale et, par exemple, pour le cas des zones à défendre, de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, dans le cas des ZAD, il arrive parfois qu'il y ait des arrestations qui se transforment très vite en internement. Au point où j'ai quelques histoires où des personnes ont passé à peine 1 ou 2 heures dans un service d'urgence et ensuite elles ont été dirigées après ces 2 heures pour des périodes de longue hospitalisation dans des centres psychiatriques. Après, je ne connais pas l'entièreté des histoires et je ne suis pas un médecin, mais pour moi, il arrive que cette phase d'observation peut être vraiment très courte avant que des personnes se retrouvent dans des centres psychiatriques, des hôpitaux psychiatriques, pour des périodes qui peuvent être plus ou moins longues. Et il existe aussi une procédure qui permet pour un interné sous contrainte de faire appel de cette décision. Et ça va être une espèce de jugement qui peut prendre, enfin, qui normalement prend au minimum 10 jours. Des fois, ça peut être sur des durées plus longues. Mais voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Et voilà. Mais merci pour vos réponses et vos explications.
Ben, vas-y, Anthony, je te laisse.
Il existe des dérives, comme partout en fait. Et c'est très malheureux. Et pour le coup, là, ça dépasse nos propres compétences. Hein. Je pense qu'on est d'accord. Hein. Laetitia, ça dépasse nos compétences. Moi, je suis psy, mais pas psychiatre. Je suis pas médecin. C'est vrai qu'il existe, malheureusement, comme partout, des dérives. Et ça, pour le coup, j'ai pas plus d'informations à vous donner là-dessus parce que je suis pas dedans. Mais en tout cas, de manière générale, en France, après dans d'autres pays, je sais pas, mais en France quand même, avant d'être vraiment enfermé, enfin, je dis enfermé pour marquer le coup, hein, du moins protégé autant pour le patient et autant pour les autres, il en faut quand même, hein, il en faut. Mais ça existe, ça voilà, c'est indéniable, ça existe.
Ouais, c'est vrai que moi j'ai un enfin après c'est une histoire d'expérience hein. Moi j'ai plutôt l'effet inverse de par mon boulot et l'expérience, c'est que j'ai plutôt l'inverse de personnes qui auraient besoin d'être hospitalisées, hein, des personnes qui ont des troubles psychiques sévères, qui auraient besoin d'être hospitalisées et qui sont refusées. Et où les parents sont obligés de se battre pour qu'il y ait quand même une hospitalisation parce que la personne est en plein trouble psychotique et qu'elle devient dangereuse, etc. Et où les aidants ne sont pas écoutés. J'ai le cas inverse, mais bon, ça, je pense que tout existe, hein, donc effectivement, comme disait Anthony, c'est sans doute des cas isolés, mais bon, oui, c'est
Et le manque de place aussi.
perturbant. Et le manque de place, ah
Et le
oui, un
manque de
manque de place
place.
indéniable, ça c'est clair.
En France, la psychiatrie en France, pour le coup, peut-être là vous avez plus d'expérience que moi sur les recherches. Alors franchement, là, allez-y, foncez. De mes propres recherches que j'ai vues, on a une bonne petite dizaine d'années de retard par rapport aux pays du Nord, par rapport à la psychiatrie en France. Foncez si vous avez des chiffres là-dessus. Moi, je suis preneur. Voilà, je suis preneur. Parce que franchement, que ce soit la psychologie ou la psychiatrie en France, les recherches sont... C'est minime. Franchement, on
Oui.
n'a pas grand-chose, hein. On n'a pas
Non,
grand-chose.
non,
Voilà.
on n'a pas grand-chose en termes de soins, on n'a pas grand-chose en termes de recherche. Et pourtant, ça mériterait enfin, vraiment de développer, parce qu'on n'en sait pas grand-chose hein, de la maladie psychiatrique finalement. On en apprend tous les jours, mais c'est vrai que ce n'est pas la France le pays le plus précurseur dans ces maladies. Nous, on en est là à dire, oh là là, les troubles psychiques, mais ce sont des maladies et il ne faut pas rejeter les autres. Donc, on est loin quand même hein, d'une bonne avancée en France.
Donc en gros, on jette une petite bouteille à la
Moi, ce
mer.
que je trouve bien avec TSSM, quand même, c'était le. Ça m'a fait rire jaune, mais je me suis dit, bah, finalement, ça a son petit effet. C'est-à-dire que bah, PSSM se développe, mais il n'y a pas que PSSM, hein, il y a plein d'autres aussi, bah, comme l'association Le Trèfle ou d'autres, qui font aussi remonter hein, qu'il y a des gros soucis en France. Et je discutais avec une infirmière psychiatrique, et elle me disait, ah ben bah ouais, mais vous êtes bien gentil, vous, avec les secousses, mais vous nous faites remonter tous les problèmes qui existent, et puis nous, bah, on est saturés à l'hôpital, donc il faudrait peut-être arrêter. Alors ça m'a fait rire parce que. Ouais,
Lol.
non, arrêtez de soulever les lièvres comme ça fait trop d'ondes sur l'eau. Mais en fait, je me suis dit, mais bah, c'est bien, parce que même si pour l'instant, bah, on a un système qui est effectivement déficitaire en termes de psychiatrie, plus on aura de remontées. Et plus il y aura de besoins qui vont monter, et plus l'État ne pourra plus faire semblant et de fermer les yeux sur les choses. Donc à un moment donné, ce sera tellement gros qu'il faudra bien réouvrir des lits, remettre en place des médecins psychiatres, etc. Donc faisons remonter les problèmes, faisons remonter les situations, arrivons aux urgences psychiatriques avec des personnes bah, qui peut-être seront refoulées par manque de place, mais voilà, faisons remonter les besoins. Parce qu'effectivement, pas de problème, pas de besoin, pas de solution. Donc, bah, allons-y. Sortons du tabou et mettons en avant ça. Ça commence seulement maintenant hein, avec les statistiques, on voit un petit peu, mais vous voyez que les solutions, elles sont quand même menues. Enfin, hein, SSM, c'est pas non plus, et on n'est pas les seuls. Hein, il y a plein d'associations, mais c'est léger quand même encore, je trouve. On peut faire mieux.
Et je voulais aussi réagir, excuse-moi Cap, je voulais aussi réagir, il y a un manque de place critique avec des personnes qui pourraient s'y retrouver alors que ce n'est pas exactement leur place et des personnes qui en ont besoin et qui soient refusées. Donc il y a ce manque de place, mais comme dans beaucoup d'autres structures et services publics, c'est aussi un manque de moyens et d'investissement de l'État pour renouveler certaines infrastructures et embaucher des personnes
Ouais, c'est surtout
compétentes.
au niveau du personnel. Oui. Mais bon, ils ont fait en psychiatrie, mais comme en santé physique, hein, ils ont fermé des lits et des lits et des lits depuis des années. Donc forcément, à un moment donné, alors sous couvert de et c'est pas effectivement de se dire que bah, les personnes qui ont des maladies psychiques doivent être intégrées dans la société et que la maladie doit être traitée à domicile, en hôpital de jour, etc. Et qu'il faut un peu sortir des institutions. Certes, enfin moi je suis d'accord avec ça. Mais il faut qu'il y ait derrière les moyens soient donnés, quoi. Parce que si c'est pour que les gens ne soient pas soignés et laissés livrer à eux-mêmes dans la société, dans la cité, ça ne peut pas aller non plus. Donc, oui, accompagner les personnes, oui, mais il faut des moyens. Et là, il y a des cas, des maladies psychiques qui sont très sévères et qui ne peuvent pas être soignées à domicile. C'est pas possible. Les personnes sont trop hors de la réalité ou se mettraient en danger. Donc, il faut quand même de la place, il faut des lits, enfin. Enfin bon, j'arrête, j'allais dire des choses plus, enfin, sortent du cadre, des points de vue plus politiques qui ne regardent pas le sujet.
Justement, j'en profite, je rebondis. Juste pour vous dire, là, on est à 2 heures à peu près de livre blanc. Ce que je vous propose, c'est qu'on clôture cette première partie qui est enregistrée, pour passer après sur la partie complètement format, complètement ouvert et donc pas enregistré. Ce que je te propose, Letty, il y avait juste, c'est peut-être pour finir sur la formation, c'était une question d'Anto où il disait, en gros, pour devenir, pour le coup, formateur PSNM. PSSM, en gros, est-ce que tu as quelques petites informations, le contenu, conditions,
Bien
et
sûr.
après on fait une petite phrase de conclusion pour cette première partie, si ça te va.
Bien sûr, bien sûr. Alors, pour être formateur PSSM, donc pour être accrédité, pour suivre des formations, en fait, il faut déjà avoir fait les 2 jours de formation en secourisme, ce qui paraît normal. Donc, il faut déjà être secouriste en santé mentale. Et après, il y a une formation de 35 heures pour apprendre à donner le contenu de PSSM France, en fait. Parce que comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est un contenu qui est général. Donc, en tant que formateur, le contenu nous est imposé. On ne peut pas jouer avec, on ne peut pas retirer des choses, en rajouter, on ne fait pas ce qu'on veut. On doit respecter le cadre, puisqu'il est. Enfin, c'est ce que j'ai expliqué dans les 10 premières minutes. Et donc, pour ça, bah, c'est ouvert à toute personne qui aurait de l'expérience ou de la formation bah, dans le secteur de la santé mentale ou dans le social, dans le médico-social. Il y a même des personnes qui se lancent en reconversion professionnelle, c'est un peu plus compliqué. Faut vraiment la refaire une remise à niveau personnelle. Mais voilà, elle est accessible sous dossier auprès de PSSM France. Donc faire les deux premiers jours de secouriste après la formation de 35 heures. Durant la formation des 35 heures, bah, vous suivez les cours et vous êtes évalué, savoir si vous pouvez être accrédité ou pas. Donc il y a différents degrés où ça se passe bien et vous êtes accrédité de suite, où c'est un petit peu encore fragile. Et à ce moment-là, vous devez faire des formations avec d'autres formateurs accrédités sur le terrain pour un petit peu consolider votre pratique. Et puis, bah, une fois que vous êtes accrédité, eh bien, c'est ce que je vous disais au départ. Après, vous pouvez être à votre compte, vous pouvez redonner les formations à vos collègues ou travailler pour des OF. Hein, il y a plein de possibilités. Est-ce que c'est assez développé? Est-ce que vous voulez que je rajoute des choses?
Merci pour l'info, du coup.
Voilà, sur le site PSSM France, vous pourrez trouver les indications comment devenir formateur. Et la formation de formateur, elle coûte 1 500 euros. Voilà, s'il y en a qui veulent se lancer.
C'est noté. Ça va aussi. Tout a un coût, mais au moins celui-là, c'est un coût pareil qui est utile, comme bien des choses. Est-ce que, Letty, tu aurais une conclusion par rapport à finalement, ou comme dit Sky, une bouteille d'eau à la mer qu'il faut jeter aux jeunes générations, mais en gros, plutôt quelque chose finalement, qui soit dans la continuité, qui soit positif finalement par rapport à cette formation, le fait que peut-être, lancez-vous, allez-y, profitez justement de ce livre blanc pour découvrir et.
Moi, j'ai envie de dire, j'ai tellement envie de dire deux choses. J'ai envie de dire que cette formation, premier secours en santé mentale, eh ben, elle est valable pour les troubles psychiques, mais elle est valable aussi pour n'importe quelle situation, pour une personne qui est en détresse, en fait. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être malade psychiquement Votre mari qui vient de vous quitter, vous venez de perdre votre frère, voilà, c'est des situations aussi de souffrance et où la formation PCSM marche aussi. Et voilà, elle est appliquée en plein plein d'autres événements. Donc faut l'ouvrir en fait, hein, pas la laisser sur ce champ-là. Et j'ai envie de dire que bah, avant tout, pour moi, cette formation, elle est de redonner un peu du sens à la solidarité entre nous, entre êtres humains, entre citoyens. Voilà, remettre un peu de solidarité, remettre un peu de tolérance et d'arrêter de juger, en fait. D'arrêter de juger sans savoir et de retrouver une compréhension et un lien social. Voilà, pour moi, la formation, c'est... Enfin, quand je l'enseigne, derrière la formation, il y a ça. C'est redonnons du sens à être tous ensemble et à s'entraider. C'est ça qui est derrière.